Bonjour tout le monde. Ce mois-ci, avec moi, j'ai Nicolas. Salut, Nick.
Hey, salut.
Vincent. Salut, Vince.
Salut tout le monde.
Richer qui est de retour, comme moi-même. Salut, Richer.
Salut.
Et Steve. Salut, Steve.
Bon après-midi.
Donc, ce mois-ci, beaucoup de nouvelles, quelques sujets de discussion aussi. Mais avant de commencer, on va faire nos petites shameless plugs. 24 mai, cette semaine, à Québec, Québec Sec. C'est un talk par un étudiant de l'Université Laval qui va nous parler de comment faire un Wi-Fi avec un Raspberry Pi, comment pirater, faire des choses avec un Raspberry. Isaac à Québec, le 29 mai, c'est la journée CSX. Et logiquement, je donne une conférence là, ça risque d'être le fun, ne manquez pas ça. 25 juin, Hacking in Paris. 30 juin, la nuit du hack. Donc, pour commencer les discussions, on va y aller avec Vince. Parle-nous un petit peu de la Nintendo Switch.
Eh bien oui, mauvaise nouvelle pour nos cousins japonais. Il y a des pirates qui ont trouvé le moyen de pirater la Switch. Bon, leur exploit circule présentement sur la toile. Et puis, ça concerne pas les nouvelles consoles dernièrement assemblées, parce que j'ai l'impression qu'une mise à jour a été appliquée, mais il y a des les anciennes consoles qui peuvent être piratées. Ben, elles, malheureusement, Nintendo n'y peut rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une faille qui a été exploitée, qui permettait justement... La faille paraît permettre le développement de jeux, voire de nouvelles fonctions pour la Switch, sans passer justement par les outils natifs fournis par Nintendo, justement, pour pouvoir faire des développements sur cette console-là. Le point faible étant physique, comme j'ai dit, il n'y a pas moyen de pousser une mise à jour ou de faire du remplacement. Alors, seules les nouvelles Switch vont être protégées jusqu'à la prochaine découverte de la faille. Et puis, malheureusement, la faille était connue depuis longtemps, donc c'était transféré, j'ai l'impression, secrètement entre collègues, entre communautés alliées, jusqu'à temps que quelqu'un, en fait, le dévoile sur la toile. Et puis, voilà, le japonais, le GA japonais a décidé de corriger sa faille, justement, pour ne plus que sa console se fasse déjouer.
Excellent, puis c'est quand même intéressant dans le sens que ça va donner accès à plus qu'au jeu. Donc, on se ramasse avec un petit ordinateur pour faire du Netflix et autres, ce qui n'est pas le cas présentement.
Effectivement, mais c'est... Êtes-vous surpris? Moi, je ne suis pas surpris. Chaque nouvelle petite bébelle intéressante qui sort, c'est sûr que quelqu'un va trouver une faille ou va chercher à faire quelque chose d'autre, justement, à sa console. Je ne suis pas surpris, puis mais je trouve ça...
Non, ça n'a jamais été non plus ce que Nintendo voulait, être super sécuritaire versus PlayStation, que la PS3, je pense, ça a pris 3-4 ans avec quelqu'un trouve comment faire. Eux, toutes leurs consoles, généralement, se font avoir. Peut-être qu'ils n'avaient pas pensé à celle-là, par exemple. Mais
la communauté en ligne, c'est une plus belle surface d'attaque pour les personnages malveillants, autant Microsoft que Sony PlayStation. Nintendo, la petite communauté est plus, comment je dirais ça, je la trouve plus docile, puis un peu plus grise, autrement dit, c'est pas du monde intéressant. Là.
Parfait. Prochaine nouvelle, on parle en Suède d'un implant électronique qui remplace les clés,
yes,
donc qui est maintenant une réalité. Ouais. Right?
C'est encore là, je suis pas surpris. La Suède, écoute, je trouve ça le fun, je trouve que c'est un beau pays, je les trouve game d'essayer toutes sortes de trucs comme ça. C'est gros comme un grain de riz. Ça s'insère, c'est sous-cutané. L'installation se fait avec un petit peu de douleur, mais bon, ça remplace toutes sortes de choses. Il va y avoir plus d'applications dans les mois, voire les années à venir. Mais il y a une couple de personnes assez game qui ont participé au projet, sont à peu près un millier. On peut par exemple configurer le système de portillon dans vos bureaux pour qu'au passage justement de votre main sur le lecteur, ça puisse ouvrir les portes. Il y a une puce, il semble y avoir une puce NFC dedans pour pouvoir faire du paiement sans contact. La pratique reste confidentielle présentement, Mais ça a l'air qu'en Suède, c'est les avides, justement, des nouvelles technologies. Surtout les jeunes qui participent justement au programme pour se faire implanter la puce.
Ouais, puis j'ai même vu quelques articles qui parlaient que la puce, puisqu'elle était en dessous de la peau, blablabla, c'était pas piratable. C'est une puce NFC. On reparlera pour quelque chose qui n'est pas piratable et copiable facilement. Là. Il n'y a pas grand-chose de nouveau.
Non,
là.
Effectivement. Ben en fait, à moins d'être, j'ai l'impression, très proche de la personne, on peut essayer peut-être de récupérer les données ou communiquer avec, mais disons que avant de pouvoir le faire, ça se peut qu'un coup de poing parte d'en face.
Exact. Richer, je pense que ton idée est très bonne.
Oui, ça va prendre des gants en aluminium pour pouvoir contrer le NFC comme on a pour nos cartes et pour nos porte-monnaies.
Oui, exact. Après le portefeuille, les gants NFC. Dernière nouvelle de ton côté, un chien de police qui renifle une clé USB pour attraper un hacker. Donc, c'est pas 100% nouveau les chiens et l'électronique, mais côté trouver quelqu'un, c'est quand même intéressant.
Oui, ça l'était très cool. Quand j'ai vu l'article, j'ai pas pu passer à côté, c'est Doug the Dog, The Sniffing Dog. À San Francisco, ben, l'unité canine possède justement un chien qu'ils ont spécialisé pour renifler des appareils électroniques, comme tu as dit. L'histoire, c'est qu'il y a un jeune homme qui a réussi, avec une petite campagne de phishing, d'attraper un de ses profs sur un site où il suggérait, pour accéder au portail de l'école, de faire la réinitialisation du mot de passe. Il y a un prof qui est tombé dans le panneau, il a récupéré les informations d'authentification, puis le jeune... pour essayer de passer sous le radar, il a changé les notes de 16 élèves, incluant les siennes, sauf que le poteau rose a été découvert. Et ce qui s'est passé, c'est que la police, ils ont soupçonné quelqu'un, la police a eu un mandat, et le chien, à travers une pile de Kleenex bien emmitouflée, a sniffé justement la clé USB, laquelle contenait justement les informations, entre autres, de connexion. Alors, celle-là, je l'ai trouvée très cool. Juste pour vous rassurer, la loi présentement aux États-Unis pour se faire délivrer un mandat pour justement récupérer des appareils électroniques, en fait, des contenants de données numériques, peu importe le type, là, c'est pas vrai qu'un juge va donner un mandat à la police en disant « Vous partez avec tout. » Eux autres, ils partent de la donnée. Autrement dit, qu'est-ce qui est susceptible de pouvoir être incriminant dans un dossier? Puis à partir du type de données, ils vont élaborer peut-être un éventuel contenant qui va pouvoir être perquisitionné, en fait, qui va être mis en évidence dans le mandat, qui va pouvoir être perquisitionné par la police dans le cadre d'une telle activité. Alors, merci Doug.
Yep, tout à fait. Prochaine nouvelle, puis celle-là, elle a fait énormément jaser dans les dernières semaines. Nick, on parle de... une vulnérabilité au niveau de Signal Desktop.
Oui.
Puis en fait, qui a même touché à autre chose que Signal là, après l'analyse, mais de quoi qu'on parle là?
Oui, bien essentiellement, là, l'élément le plus épatant là-dedans, c'est que entre le disclosure puis la vulnérabilité elle-même, ça a pris que 5 heures avant que ça soit résolu. Ce qui est en soi une excellente nouvelle pour la plupart des gens, sauf que le délai de mise à jour venait tôt chez les gens aussi rapide que ça. Là. C'est sûr que la version desktop, du moins pour Mac, elle se met à jour quasiment live pendant que tu l'utilises. Fait qu'elle est tout le temps en train de se mettre à jour. La version sur les téléphones, ça prend un peu plus de temps, puis ça dépend des systèmes qui suivent ce genre de choses-là. Mais c'est normalement, c'est du. C'est de la façon que la technologie est implantée, là. Mais ça.
Mais ça a quand même été rapide, là. Même sur mon cellulaire, je pense qu'en moins d'une semaine, il y a eu la mise à jour de ce bug-là. Qu'on parle de mise à jour de vulnérabilité dans des gros produits très, très utilisés sur mobile ou même sur desktop. Ils sont quand même ça coche pour y aller en rapidité, là.
Ouais, ben c'est ça. C'est tout à leur honneur, ça. Mais c'est, dans le fond, c'est un logiciel de sécurité qui va dans toutes les sphères, ne fait pas juste vendre l'idée qu'il est sécuritaire, il est sécuritaire aussi dans son implantation, puis il maintient cela à la rapidité à laquelle il déploie. C'est, c'est encore une meilleure raison d'utiliser ce logiciel-là par rapport à d'autres.
Oui, exact. Puis dans ce bug-là, il y a eu toute la discussion par rapport au système, je pense qu'il se nomme Electron, quelque chose comme ça, là. La gestion du JavaScript et tout sur les plateformes en ligne comme Slack et autres.
Oui.
Il y a beaucoup de recherches qui se font présentement pour essayer de trouver si la faille peut être exploitée via les autres systèmes. Donc, c'est pour ça que ça a fait un peu le tour de Twitter et autres.
Oui, c'est une bonne réutilisation là, qui est important. C'est... Puis si on réutilise beaucoup de code partout, fait qu'une valve qui trouve une place, ce sont des ramifications à bien d'autres.
Oui, exact. Puis tu sais, je ne sais plus à qui j'en parlais, mais en même temps, des gros logiciels comme ça, c'est sûr que tu vas aller réutiliser un framework ou des librairies. Ouais. Tu ne peux pas 100% réinventer la roue, puis c'est normal. Mais ça reste que c'est l'attaque qui va être ciblée par le monde qui font du fuzzing ou de la recherche. Ça va être les librairies qui font partie du core. C'est normal qu'on va en trouver, même si le logiciel est super bien conçu, ça se peut qu'il y ait d'autres vulnérabilités core qui vont sortir éventuellement.
Oui, mais les autres, le design complet est bon, fait que à terme, c'est pas super grave. Là. C'est vraiment un problème momentané qui est pas si pire que ça.
Yes. Si on continue à parler de vulnérabilité, il y a aussi le super overhype. EFL, vulnérabilité avec encore un nom puis un logo qui avait, selon moi, aucun rapport d'avoir autant de hype. Alors, on parle d'une publication qui disait que GPG était vulnérable à des attaques. Et vous regarderez dans les show notes, là, on a mis la réponse de GNUPG, des auteurs en tant que tels, puis qu'est-ce qu'eux ont dit. En fait, la recherche est basée sur la gestion ou intégration des concepts de GPG dans les clients courriels. Puis je pense qu'il y en a 5 à 8 clients courriels, puis je pense que le 3/4, je n'avais jamais entendu parler en plus, qui gèrent mal une certaine fonction de GPG et qui rend possiblement une attaque possible pour voler, de voir les données finalement qui sont encryptées, de les voir en clair. C'est un peu le concept d'un genre de XSS qui va aller copier les données encryptées sur un serveur remote. Dans le fond, le client va le décoder puis va caler un URL. Fait que tu es capable de décoder plein de courriels, même les anciens courriels. Donc, la communauté n'a vraiment pas été heureuse. si vous avez suivi Twitter un peu, il y a eu beaucoup de bashing sur les personnes qui ont fait la recherche. Puis il y a lieu d'être, là. Ça n'avait aucun rapport à cette vulnérabilité-là. C'était vraiment une liste de clients. Je pense qu'ils ont sorti une vulnérabilité sur S-MIME, mais il y a eu peu de focus là, à ce niveau-là. Donc, encore du hype et du trend avec des vulnérabilités à logo. C'est un peu bizarre, mais on est rendu là. Yes, prochain point, puis messieurs, vous me direz ce que vous en pensez, mais notre gouvernement du Québec a mis en place au mois de mai récemment le carnet de santé du Québec en ligne, carnetdesanté.gouv.qc.ca. Donc, accès aux médicaments, accès aux rendez-vous médecins et données confidentielles quelconques de santé de tout le monde. Personnellement, je ne suis pas très heureux, mais vous?
Ben, c'est un site qui a été mis en place depuis le mois de février puis qui promet encore là une accessibilité parce qu'on sait très bien quand on a besoin d'aller consulter les médecins, les cliniques, c'est très difficile surtout d'avoir la réponse à nos interrogations. L'idée, le concept de base, c'est fantastique. On a accès à nos résultats puis tout ça. Mais je suis d'accord avec toi, j'embarque dans le même pas où ce que le portail, on en sait toujours rien jusqu'à quel point il a été vérifié. Puis rappelle-toi, Pat, on en parlait il n'y a pas longtemps où ce qu'il y a une équipe qui était engagé pour être capable de faire des vérifications, des pen tests sur des plateformes. Je suis juste curieux à comprendre s'il aurait été engagé aussi pour faire le test ultime avec ce portail-là pour faire l'élaboration de tous les scénarios possibles pour exploiter l'information, mais j'ai une petite réserve là-dessus.
Yes, on passe à une série de nouvelles avec Steve. Première, qui est une bonne idée, en fait, une très, très bonne idée, de storer les secrets nucléaires dans le cloud. Qu'est-ce que tu en penses?
Rien de moins. Je veux dire, depuis quelques, les cinq, même j'irais jusqu'à 10 ans, l'idée, elle est rejaillie de pouvoir stocker de plus en plus d'informations à caractère classifié. Classifié, ça veut dire qu'il y a un impact sérieux sur l'intérêt national. Les Américains ont commencé à contempler l'idée d'avoir du stockage classifié in the cloud. Et au Canada, ils emboîtent le pas depuis 2 ans. Il y a des pourparlers sérieux avec Microsoft, avec AWS, pour être capable de stocker du matériel donc classifié secret, maximum secret, dans le nuage. Ce que ça implique, c'est qu'eux autres, il faut qu'ils mettent à ce moment-là les fournisseurs puis que les infrastructures sont très fiables à contribution pour avoir du stockage dans un environnement public, mais encore là, avec des clés, des accès, tout ça, que juste les bonnes personnes vont y avoir accès. On l'a vu dans des dernières années, même juste, mais encore là, dans les derniers 6 mois, combien est-ce qu'il y en a d'informations à caractère privé, même classifiées, on l'a vu pour des informations personnelles sur les soldats qui s'entraînent et qu'ils enregistrent les affaires sur MyFitness, les informations étaient diffusé à la grandeur de la planète. Et c'est juste pour dire qu'il y a toujours une intervention humaine d'une manière qui peut faire fuir l'information. Puis ça me préoccupe beaucoup. Malgré toutes les mesures de prévention qu'ils peuvent mettre en place, il reste toujours bien que ça, c'est le genre d'information que tu gardes sur une feuille de papier qui est embarrée dans un classeur, qui est embarrée dans une voûte, qui est protégée par une clôture avec des gardes armés. Ça, c'est le concept fondamental de l'information qu'on ne veut pas que personne mette la main dessus, au même titre que la sauce secrète du Big Mac ou bien la recette du Coca-Cola. Mais pourquoi que tout d'un coup, là, on se fierait à la technologie puis dire « oui, il n'y a pas de trouble, on va mettre ça » puis n'importe qui pourrait potentiellement y avoir accès. Puis on sait très bien que la capacité chinoise d'être capable d'aller s'investir dans tous les réseaux de la planète, elle est telle qu'elle n'est pas égalée. Elle n'est pas égalée par aucune nation. Même peut-être les patriotes russes, eux autres, sans dire que c'est le gouvernement, pourraient à ce moment-là se mettre à contribution puis aller gratter là-dedans. Fait que c'est ça qui est c'est fâchant parce que moi, en tout cas, certainement, ils prennent une décision éclairée, mais je crois qu'ils sont mal renseignés sur la façon qu'ils se font vendre d'idées. Je ne peux pas croire qu'ils vont mettre des trucs, des informations critiques comme ça dans l'environnement public chez un fournisseur privé. C'est comme dire que demain matin, on met tout le genre d'infrastructure comme ça pour gérer la production électrique au Québec dans les mains d'un fournisseur privé, puis après ça, Hydro-Québec va se fier à lui pour juste dire que tout l'ensemble du réseau marche. Il y a quelque chose qui accroche, là. Je ne peux pas croire que ça va être réalité, ça.
Prochaine, en fait, nouvelle, puis ça aussi, c'est assez intéressant. Contrôler un train en mouvement via du réseau Wi-Fi.
Bien, déjà, on avait été mis dans un contexte similaire il y a quelques années, il y a 3 ans, avec Chris Roberts, qui prétendait d'avoir dévié un avion en plein vol, s'étant connecté sur un port de service, sur son siège, et dit à un des deux moteurs de truster plus vite sur un côté, donc l'avion a resquidé en plein vol. De sa déposition au FBI, lui, dans son cas, il n'y a personne qui l'a contredit. Puis même le DHS ont été capables de dire oui, à travers l'infotainment, on est rentré dans l'avion puis on avait accès à la cabine de pilotage. Fait que là, cette fois-ci, c'était un train où, encore là, par la console d'un service Wi-Fi qui est offert aux passagers du train, bien, ils ont réussi à travers cette interface-là de se rendre jusqu'au contrôle du train où ce qui aurait pu faire la mise en arrêt du train n'importe quand. Fait que ça démontre, encore une fois, ça rejoint un peu ce qu'on disait tantôt pour la mise en marché de matériel informatique. La sécurité est souvent absente, puis je ne comprends pas encore comment ça se fait que la fonction de vérifier, la contrôle de qualité pour vérifier la sécurité, puis faire exactement ces tests-là que vous et moi on fait à l'occasion, bien, comment ça se fait que ça ne se fait pas post-production d'un produit, puis après ça, il est certifié pour aller sur le marché comme étant, on rencontre les normes X, Y, Z. C'est absent, puis c'est ça qui vient en sorte que ça menace des vies présentement. Puis on ne parle pas de trucs médicaux, on parle de moyens de transport, puis là, on n'a même pas parlé d'un véhicule automatisé encore. On parle vraiment d'un transport en commun que tout le monde utilise à chaque jour, puis de façon bénigne à travers le Wi-Fi, on pourrait faire à ce moment-là arrêter le train, puis ne pas le faire repartir même. Fait que ça travaille l'esprit, puis ça dit, bien, tabarouette, c'est qui engage tout le monde-là pour en mettre des systèmes de même, puis que tout le monde profite du Wi-Fi parce que c'est wow, on occupe le monde sur le train. Maintenant, il faut voir la sécurité à l'essentiel, puis c'est de faire bouger le véhicule.
Oui, puis tu as le concept aussi que tout ce qui est un peu plus industriel, shop et autres, que la sécurité pour eux, v'là longtemps, ça a toujours été un concept d'isolation de zone.
Oui.
Même si toutes les zones se bypassent, puis tu peux parler à haute, comme le cannabis, whatever, dans l'auto.
Exact.
Mais ça a toujours été ça. Puis là, je sais pas pourquoi ils sont pas réveillés encore, mais il y a beaucoup d'efforts là-dessus. Là, le IAM Cavalry aux États-Unis qui pousse beaucoup sur, au début sur les voitures, maintenant sur les équipements médicaux. Train, avion et autres, c'est tout le même concept. Là, on connaît plusieurs personnes qui ont fait des pentests sur des systèmes d'avions aviatiques. Puis c'est une question d'heures qu'ils réussissaient, en ayant un accès physique local, qu'ils pouvaient se promener d'un endroit à l'autre. Là.
Ah oui, tout à fait.
Fait que l'isolation, c'est bien beau, mais si tu fais rien d'autre, ça donne pas grand-chose.
Tout à fait.
On continue avec une série de nouvelles. Je te laisse aller. On commence avec crypto-jacking pour les sites de Drupal.
Ben oui, en rafale, là, il y a eu beaucoup d'activités. C'est pour ça qu'on dit qu'on va continuer avec un par un, mais que ça va aller rapide parce que cette semaine, c'était vraiment une grosse semaine en termes de dévoilement d'un paquet de nouvelles en sécurité informatique. Donc, comme tu amènes ici le code pour être capable de faire des sites de Drupal qui se font infecter avec du code pour faire du crypto-jacking. Vu que la vulnérabilité, elle a été annoncée quand même, ça fait que quelques jours, pour pas dire quelques semaines, beaucoup tardent à patcher, puis les malfaisants s'en prennent à la faille qui est à l'intérieur du code pour être capable d'insérer du crypto-jacking puis être un petit peu plus rentable pour le côté. Si on poursuit avec les autres points, on avait donc IBM qui prend le lead quand même dans l'industrie, puis qu'il bloque, il empêche, il interdit les stockages externes comme les clés USB, les cartes SD, les disques durs externes d'être connectés aux appareils corporatifs pour prévenir le vol d'informations et de propriété intellectuelle, ce qui est un bon point en soi et ça devrait être, me semble, je ne sais pas que vous en pensez, dans pas mal d'organisations, ça devrait être la base, à ce que je sache.
Personne ne parle, mais moi, je vais parler. Je suis d'accord.
Dans le même ordre d'idée, ben, Kaspersky, ça débarque, continue de sur certains marchés parce que au Danemark, le gouvernement danois. Aux Pays-Bas, c'est vrai, c'est aux Pays-Bas, c'est pas au Danemark, qui ont décidé de retirer Kaspersky de leurs environnements gouvernementaux et encouragent fortement l'entreprise privée à faire de même, donc poursuivre le pas américain de retirer Kaspersky. Tout ça sous la probabilité ou la possibilité que Kaspersky soit exploité par les services de renseignement russes, dont le FSB et le GRU. Fait que là-dessus, ce qui est drôle, c'est qu'en même temps, en parallèle, Kaspersky ont annoncé qu'ils s'en allaient en Suisse pour être capable de développer le laboratoire en Suisse pour faire le concept de vulnérabilité, donc montrer un peu plus de transparence. Jusqu'à quel point qu'ils ont, encore là, ils vont-tu sur une base de rumeurs pour dire que Kaspersky, en coque, on va l'enlever? Je sais pas, les gars, que vous en pensez, mais c'est bien un produit parmi d'autres. Ça veut-tu dire que s'ils suspectent les Tchécoslovaques, ils vont enlever E7 du marché, puis s'ils suspectent les Anglais, ils vont enlever Trend Micro? Où est-ce que ça s'arrête, ça, là, quand on a des suspicions comme ça envers un État-nation qui pourrait investir une compagnie privée?
T'sais, en même temps, je pense que c'est plus un move politique basé sur « Ah, telle compagnie est à quel endroit? » C'était plus « Oh, ils ont beaucoup de pouvoir ici en termes de vente. On va faire chier tel pays. » Je sais pas.
Ouais. C'est encore, ouais, comme tu dis, c'est fuzzy pas mal, là, mais je trouve ça dommage. Puis tant mieux. Ça, c'est un problème, comme tu dis, commercial à eux. Mais encore là, le produit, moi, je le vois toujours comme étant à égal avec les autres compétiteurs, un produit qui vaut à peine d'évaluer et de regarder. Mais c'est certain, de plus en plus, lorsqu'il y a dépôt d'informations dans le cloud, comme ça a été la controverse aux États-Unis, bon, ben, c'est à la faute de Kaspersky qui trouve l'information classifiée et qui rapporte ça à son cloud ou dans son sandbox pour faire les vérifications. Ben non, c'est la faute du consultant qui a été volé du stock, puis que là, l'antivirus a fait sa job, puis l'a rapporté. C'est ça qui est un petit peu un no-sense, là. Tout comme l'installation de spyware contre la population, donc les ressortissants turcs sont étroitement surveillés de par le gouvernement à l'extérieur, surtout de la Turquie, surtout depuis qu'il y a eu le tentative de coup d'État l'année passée. La Turquie a voulu faire un crackdown sur les ressortissants, puis comprendre un peu plus là, leurs allées et venues, et surtout leurs intentions. Tout comme au Mexique, depuis quelques années, ça se fait envers les figures politiques et de médias avec du logiciel qui s'investit surtout les plateformes Android et qui peut à ce moment-là enregistrer à distance, prendre le contrôle du téléphone, donc documenter la personne où elle se trouve en temps réel avec le GPS et tout. C'est une violation directement des droits privés. C'est suivi par le Citizens Lab. Vous savez, c'est eux autres qui ont amené le rapport, l'organisation à but non lucratif qui travaille à partir de Toronto, qui fait des très bons travaux et que ça soulève encore le point où ce que jusqu'où on peut laisser ça aller. Mais il y a beaucoup de gouvernements que ça ne le dérange pas dans des pays, puis ils veulent prévenir toute tentative tentative de forme de répression, plutôt pas de répression, mais plutôt d'opposition au pouvoir et de créer l'anarchie. Ça me faisait rire parce que ça veut dire qu'on va demander, obliger les gens qui vont assister à un certain événement d'obligatoirement de télécharger une application, alors que ça, maintenant, c'est volontaire. Les gens s'approprient une application lorsqu'ils vont à un site, puis sans le savoir, ils se font documenter, là, mais ça, c'est une autre histoire. Sauf que c'est comme ça que ça se passe. Dans le même ordre d'idée, ben, la banque au Mexique, des banques au Mexique se sont fait subsidier jusqu'à 15 millions de dollars US par la vulnérabilité du logiciel d'échange d'informations, plutôt de transactions bancaires au Mexique. Ils ont été capables de créer des faux comptes avec lesquels ils ont été capables de transférer des sommes, donc jusqu'à 15 millions, pour subtiliser cette information-là. Puis, en fait, ils ont créé des comptes dans le système de paiement. Et ultimement, ben, ils ont fait faire aller mettre en place des autorisations parce qu'il y avait une vulnérabilité dans le logiciel pour être capable d'approuver l'échange d'argent et approuver le transfert de cet argent-là. Fait que c'est encore intéressant de voir que quand même des organisations sérieuses comme des systèmes bancaires, il y en a qui trouvent les failles et les exploitent. Et dans ce cas-ci, c'est un vol de banque qui n'a pas fait peur à personne, qui n'a pas fait blesser personne. Quand même, c'est un coup de chapeau, je pourrais dire, entre guillemets. Mais ça relance encore l'idée qu'il n'y a pas aucun système qui est infaillible, surtout pas dans l'environnement bancaire. Ce qui nous amène aussi dans les opérations de transport, encore lorsqu'il y a des systèmes de train, de transport de train, lorsqu'on est de l'autre côté de la planète, en Europe, bien, il y a beaucoup de gens qui sont en dépendance, beaucoup plus qu'ici en Amérique du Nord, chez nous en tout cas, des transports en commun, et que beaucoup de cyberattaques ont fait en sorte que le système ferroviaire ait été dérangé, dans le sens qu'il n'y avait pas de possibilité qu'il soit utilisé. Fait que pendant la semaine dernière, pendant quelques heures, le système ferroviaire était arrêté à cause de systèmes extérieurs. Ils ont travaillé avec les télécoms, les services policiers, bien sûr, ils ont établi service, mais ça laisse à ce moment-là la question jusqu'à combien de... comment est-ce que sont résilients les systèmes pour assurer le transport des biens et surtout des personnes lorsqu'ils se déplacent dans le jour. Ça revient un peu avec notre histoire de Wi-Fi. Je veux dire, si on est capable de rentrer avec une interface Wi-Fi et contrôler le train, regardez qu'est-ce qui peut être fait pour arrêter le transport en commun d'une communauté au complet, parce que ça affecte directement l'économie. Ça va de soi. Au même titre que souvent, les réponses reviennent des fois... les questions reviennent sans réponse quand on pose des questions, lorsqu'on voit qu'il y a des arrêts de longue période et complète de systèmes de transport comme à Montréal avec le métro. C'est arrivé quelquefois qu'il y a eu des ratés informatiques, autant par des bris d'équipement, mais aussi par des influences externes que j'ai sues, et qu'on laisse ça vraiment peinard, lettre morte, on fait comme si de rien n'était, mais en réalité, il y a des attaques qui se font envers cette infrastructure essentielle. Tout comme on peut s'amener donc à la réflexion de WannaCry après un an, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Est-ce que les gens ont appris de WannaCry et est-ce qu'on se... Ça va mieux dans la
Tout
société?
Tout le monde fait des backups.
Moi, j'ai encore le goût de broyer. Là,
ben voyons donc, comment ça? Ah non, ça c'est tellement drôle parce que moi je le vois dans bien des places où ce que ça n'a pas changé. Les pratiques sont encore les mêmes. Comme tu dis, il y en a beaucoup plus qui font des backups, parfait. Mais ils font des backups de quoi? Bien souvent, ils font des backups de scrap, excusez de dire ça comme ça, puis ils ne font pas la vérification par appel. Le backup est encore valide jusqu'à temps qu'il y ait un prochain WannaCry qui va apparaître, puis il y en a certainement un moment donné qui va apparaître. Et on a son auteur, le Malwarebyte Kid, qui lui a passé... récemment en cours, puis qu'il a déclaré qu'il a été déclaré coupable, puis contribué, parce que son code, il l'a vendu, puis c'est quelqu'un d'autre qui l'a exploité. Mais le code que lui avait dessiné, c'était pour faire du vol financier. Et après ça, son code a été exploité par quelqu'un d'autre qui a été rattaché éventuellement à la Corée du Nord. Mais il a trouvé ça, la réponse rapide, pour être capable d'arrêter la propagation, parce qu'il savait à la base que son code fallait travailler de cette façon-là. Fait que c'est intéressant de voir si un prochain WannaCry, ben il va s'attaquer à quoi. Puis je dirais, ça va être lancé dans le firmament, dans n'importe quoi, ou bien ça va être encore ciblé vers un marché spécial, comme on a vu avec notre PTA le mois suivant.
Je pense que tu lèves un bon point. Le fait d'avoir des backups, c'est bien, mais c'est pas ça qu'il faut faire seulement. Il faut les tester, il faut voir comment ça fonctionne. Il faut simuler une perte de backup, puis voir comment les récupérer. Il faut aussi pas donner autant d'accès aux backups qu'au poste normal, parce que le virus va juste se propager dans vos backups, cas déjà vu. C'est pas juste le fait que les médias ont dit le mot backup que nécessairement c'est la seule chose à faire.
Et ça serait peut-être aussi intéressant d'explorer l'avenue de chiffrer les backups, parce que je veux pas, si c'est le cœur, et pour beaucoup de PME, ils mettent beaucoup dans un panier d'informations, d'informatique. Mm-hmm. Ils se disent à l'abri de récupération rapide lorsqu'ils mettent ça dans le backup. Mais si le backup ne sont pas chiffrés, quelqu'un peut exploiter le backup, le copier intégralement, puis après ça, le scraper, puis l'entreprise va être à terre parce qu'elle n'a plus accès à ces données.
Oui, tout à fait. Ouais, il faut que ce soit chiffré. Comme la plupart des bases de données, si tu voles le disque dur en tant que tel, la BD au complet est supposée être chiffrée. Tu sais. C'est sûr que quand elle roule, tu es capable de faire de l'injection, la voler live, mais quand c'est off, c'est supposé d'être chiffré. Mais bon, ça aussi, c'est un autre cas qui n'est pas très en fonction, disons.
Ben, ce qui m'amène directement en lien avec ce qui s'est passé à Radio-Canada mercredi, où il y a une pièce d'informatique, je suspecte que c'est une unité de stockage, qui a été volée. On ne sait pas encore quelle location de Radio-Canada qui a été compromise. La GRC, le service de police locale, est sur le cas. Il aurait identifié la personne qui aurait fait le vol via les caméras de surveillance. Et ça affecte 20 000 personnels de travail et des fournisseurs, donc comme votre humble serviteur, qui s'est fait servir deux lettres pour dire « Vos données personnelles, monsieur, ont été possiblement compromise. Il n'y a aucune indication en ce moment que c'est le cas. Mais encore, pour prévenir que si jamais il arrive quelque chose, vous pouvez vous inscrire chez Equifax qui vont vous protéger. On verra en temps et lieu si jamais ils peuvent protéger. Ils ne peuvent même pas se protéger eux-mêmes. Mais c'est le service, en tout cas, c'est la réaction normale où ce que Equifax vont à ce moment-là faire les analyses. Puis si jamais ils suspectent que les données personnelles, en tout cas les miennes, seraient utilisées dans des contextes malicieux, ben ils pourraient lever le flag. Puis autant que moi, si je clame que quelqu'un a utilisé mes données dans des méfaits, ben je pourrais dire, ben voici, regarde, ça se peut, c'est à cause de ça. Puis là, la police va pouvoir partir faire son enquête.
Mais félicitations, c'est comme tu as gagné un prix, mais il est juste pas bon.
Oui, on peut le voir comme ça. Ouais, OK, I got some fame for a few minutes.
Yeah, sure.
Puis en parlant des services policiers, justement, ben on a encore un autre service policier pour la deuxième fois aux États-Unis qui se sont fait rentrer dedans par du ransomware. Rentrer dedans dans le sens qu'il y a quelqu'un qui a activé un ransomware puis qui a encrypté. Et là, maintenant, ils ont perdu du travail parce qu'ils n'ont pas voulu payer la rançon, j'imagine. Ils n'ont pas été capables de retrouver l'accès à 10 mois de travail d'enquête. Wow. Et ça commence à être fatigant parce qu'il y a beaucoup de... aux États-Unis, là, ça les est arrivé beaucoup de fois. Et ce que je détecte, et ce que quand je parle aussi avec des policiers, c'est souvent ce qui arrive... À l'intérieur du poste de police, ils se disent physiquement à l'abri et il y en a qui ne sont pas assez futés pour se prévenir de dire ben on est sûrement protégé par un système à l'extérieur, je suis dans la police, il n'y a rien qui peut m'arriver. Ils ont une surconfiance en leurs moyens et bien souvent, j'ai détecté avec les gens que ça leur arrive à cause de ça, cette surconfiance de dire qu'il n'y a rien qui peut arriver chez nous et après coup, ben ils en sont victimes eux-mêmes puis là, c'est grave parce que c'est des données d'enquête que ça veut dire qu'il y a des criminels qui vont peut-être marcher à cause qu'il n'y a plus de preuves contre ces criminels-là.
C'est même pas juste une question, il n'y a plus de preuves. Ça veut dire que la preuve a été jouée avec. Fait que par défaut, exactement. Ils ont tout perdu. Là, la chaîne de... Je ne sais plus comment...
De custody, oui.
Oui, exact. C'est mort.
Oui, puis en tout cas, il y en a plusieurs comme ça. Puis ça va, encore une fois, de dire, bon, ben si on a des informations à garder... Comme on parlait de backup tout à l'heure, mais il faudrait que ça soit fait offline. On déconnecte ça, puis il n'y a pas rien d'autre qui vient toucher, mais ça va de soi. Mais les gens sont tellement habitués d'être toujours interconnectés. Il s'agit juste d'un incident comme ça, puis ça vient de faire dérailler, comme on voit là, des heures et des mois de travail. Là. C'est juste malheureux, puis c'est encore pire. Là, on est dans la période des impôts. Les gens ont fait leur production d'impôts. Il n'y a pas eu d'incident grave cette année comme l'année passée. Mais là, il ne faut pas relaxer sa vigilance. Et si on a fini de traiter nos données personnelles, ben archivez-les. Et stockez-les à l'extérieur de votre ordinateur. Gardez pas ça sur votre ordi de grâce, parce que si jamais il est investi et les gens en exploitent, ben votre information personnelle peut être exploitée. Donc, stockez ça sur un médium extérieur verrouillé dans un tiroir, ce serait certainement une bonne précaution.
Effectivement. Donc, ça fait le tour des nouvelles. Merci, messieurs, pour ce mois-ci. On se revoit dans deux semaines. Et je pense qu'on est dans la saison où il y a beaucoup de nouvelles de ce genre-là. Donc, ça risque d'être intéressant dans les prochaines semaines.
On est dans l'année où il y a beaucoup de nouvelles.
En plus, dans l'année, oui.
Oui, Là, tu l'as dit.
Mais je veux dire, l'été arrive, le monde se réveille, donc il se passe plus de cas intéressants, si on peut dire. Donc, merci à tous et on se reparle bientôt.
Over and out.